ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau.
Et bonjour à vous tous, auditeurs, auditrices de la fréquence maternelle. Bienvenue à ces programmes psychologiques. Bonjour Papa André.
Bonjour Maman Régine.
Alors nous continuons avec ce chapitre sur les rêves et les phénomènes paranormaux. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est bien comment distinguer le paranormal du psychopathologique. Vous avez la parole pour l'expliquer.
Merci beaucoup. Exactement, c'est cela la question sur laquelle nous proposons de nous focaliser dans la causerie d'aujourd'hui. Pour rappel, le terme de paranormal désigne tout phénomène réel ou présumé tel, mais dont l'existence ne peut être prouvée par la science. Les apparitions, la bilocation, les guérisons miraculeuses, la métamorphose, les rêves prémonitoires sont autant d'exemples de phénomènes paranormaux, appelés également phénomènes parapsychologiques. Le terme de psychopathologie, quant à lui, fait référence à un trouble mental, synonyme d'incapacité persistante pour un sujet qui en souffre, d'entretenir des interactions positives et constructives avec lui-même et avec son environnement. Une psychopathologie est une incapacité persistante à avoir une perception adéquate de soi et de l'environnement. Le problème est que, dans beaucoup de cas, on peut assister à des phénomènes ou des comportements relevant purement de la psychopathologie et croire qu'on a affaire à des phénomènes d'ordre surnaturel, donc des phénomènes paranormaux. Il importe donc de savoir comment discerner, comment distinguer le paranormal du psychopathologique. Voici quelques exemples des symptômes des troubles mentaux qui peuvent facilement être considérés comme des phénomènes parapsychologiques. En premier lieu, nous avons ce qu'on appelle le délire. Qu'est-ce que c'est qu'un délire? Eh bien, délire, par définition, est une prise de position rigide et erronée par le sujet par rapport à la réalité extérieure. Lorsqu'un psychotique a décidé une chose ou qu'il croit en une chose, que cela soit vrai ou faux, aucun argument logique et rationnel ne peut le dissuader. Donc, un délire est une idée fixe. À ce sujet, on nous dit qu'il existe plusieurs sortes de délires, notamment le délire de persécution, le délire mystique, le délire de mégalomanie, l'idée de grandeur. Lorsque vous souffrez d'un délire de persécution, par exemple, convaincu qu'un oncle vous en veut à mort, tout le bien que cet oncle peut vous faire ne suffira jamais pour vous dissuader de votre idée fixe. Lorsque vous souffrez d'un délire mystique, convaincu que chaque premier samedi du mois à 15h pile, la Vierge Marie vient vous chanter des cantiques du paradis, alors rien et personne ne pourra changer votre conviction. Un tel délire va conditionner vos pensées, vos émotions, vos comportements et même vos rêves. En deuxième lieu, nous avons les hallucinations. Une hallucination est une perception sans objet. En ce sens, elle est différente d'une illusion, qui, elle, consiste en une erreur de jugement. Lorsque vous avez vu ou entendu quelque chose réellement existant, mais que vous avez mal perçu, alors vous avez une illusion. Par exemple, vous prenez le vert pour le bleu. Vous prenez une chauve-souris pour un hibou, un chien pour un léopard, un lézard pour un crocodile, un oiseau pour un avion. Mais lorsque, objectivement, il n'y a rien à entendre, rien à voir, et que vous êtes convaincu d'entendre ou de voir quelque chose, alors vous avez une hallucination. Je vois un chat tout noir dans ma cuisine. je vois un gros serpent se dresser contre moi cherchant à m'avaler. J'entends chanter des chants de Noël. J'entends un homme marcher sur le toit de ma maison toutes les nuits. Je vois le soleil danser comme ce fut le cas avec les trois petits bergers de Fatima. Je vois des objets qui se déplacent tout seuls dans ma maison. Je sens le parfum de Sainte Rita ou de Padre Pio, alors que toutes les personnes se trouvant dans les mêmes conditions physiques que moi ne voient et n'entendent rien, justement parce qu'il n'y a rien à voir, rien à entendre ni à sentir. Alors, il est fort probable qu'il s'agisse d'une hallucination et donc d'une maladie mentale dont je souffre. Troisièmement, c'est l'hystérie. Qu'est-ce que c'est qu'une hystérie? Une hystérie signifie la tendance à exprimer ses émotions de manière excessive, pathologiquement. On est d'une telle faiblesse psychologique qu'on tend presque toujours à vivre ses états d'âme avec beaucoup plus d'intensité qu'il ne le faut. Qu'il s'agisse de rire, de pleurer, d'être triste, eh bien, c'est toujours excessif. Cela fait que certains conflits psychiques peuvent s'exprimer par des comportements ou des phénomènes apparemment surnaturels qui feraient penser aux phénomènes paranormaux, alors qu'il ne s'agit que de mes émotions. Dans cet ordre d'idées, on a connu des prétendues apparitions, des cas de stigmates, donc des marques des plaies de la passion de Jésus, alors qu'il ne s'agissait que des constructions du cerveau humain, du fait que les personnes concernées, donc les prétendus voyants ou mystiques, avaient une structure de personnalité hystérique. Cela est également vrai pour ce qui concerne ce qu'on appelle les envoûtements ou d'autres faits prétendument relevant de la sorcellerie. L'on peut se croire victime d'un sortilège alors qu'on est victime de son psychisme malade. Autrement dit, on peut avoir tellement peur de quelque chose qu'on conditionne son organisme à fonctionner de telle manière qu'on souffre de ce dont on a peur. Donc, lorsque vous vous sentez malade et que le médecin ne vous diagnostique rien, cela ne signifie pas forcément que vous êtes victime de la sorcellerie. Ça peut être que les examens médicaux n'ont pas été suffisamment approfondis ou que vos souffrances viennent de votre psychisme malade. Tous les psychologues et cliniciens savent que beaucoup de personnes souffrent de ce qu'on appelle les hystéries de conversion, c'est-à-dire le fait que des problèmes psychiques se changent en problèmes organiques. On se plaint des troubles somatiques alors que des symptômes souvent observables, à l'œil nu, alors que dans la plupart des cas, l'organe ou la partie du corps intéressé ne représente aucune anomalie sur le plan clinique. Ainsi, on peut avoir des cas de gastrite, perte de connaissance avec raideur et mouvements convulsifs du type épileptique, contractures, spasmes et tremblements, troubles sensoriels, visuels et auditifs, troubles gynécologiques, il y a des cas, ce qu'on appelle des cas de grossesse nerveuse, donc des hystéries, peut avoir des vomissements, troubles cardiaques résistants à tout traitement, peut avoir la paralysie des membres supérieurs ou inférieurs alors que les nerfs sensitifs, les muscles et les os des membres concernés sont en parfait état. Il peut s'agir de phénomènes religieux mystiques tels que nous venons de le dire. On voit la Vierge Marie, on voit Saint Gabriel, l'archange, on parle en langue, n'est-ce pas? On entend chanter les anges. On entend la voix de la Vierge Marie, notre Seigneur, donnant des messages précis. Donc, on a les dons de ce qu'on appelle paroles de connaissance, etc., etc. Il existe aussi un autre type d'hystérie qui se caractérise par ce qu'on appelle la dissociation de la personne, c'est-à-dire la désintégration de l'unité psychique de l'individu. une sorte de démembrement du soi, c'est-à-dire de l'image et de la conscience qu'on a de soi-même. Selon les individus, cette altération peut concerner l'identité de la personne, sa mémoire ou sa conscience. Si la dissociation concerne l'identité, le sujet souffrira de ce qu'on appelle trouble de personnalité multiple. Dans un tel cas, le sujet vit et se comporte tantôt comme une personne donnée, tantôt comme une autre personne qui n'a rien à voir avec la personne qui venait, le personnage qui était en activité avant. Le passage inconscient d'une personnalité à une autre est souvent causé par un événement douloureux ou stressant. Si c'est la conscience de soi qui est touchée, alors on perd temporairement sa propre identité et on devient comme si on était un observateur de sa propre personne, ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Au cas où la mémoire est affectée, le sujet souffrira de fortes troubles de mémoire, donc des amnésies. Et si le sujet qui souffre d'une telle amnésie est porté à agir par tempérament, c'est une personne très active, on peut assister souvent à des fugues, des fuites psychogènes. Une personne qui s'en va de son milieu de vie pour une destination inconnue. À présent, voici une question importante. Qu'est-ce qui favorise le développement d'une hystérie chez un individu? On a remarqué que les personnes hystériques ont souvent les caractéristiques suivantes. Il y a ce qu'on appelle une forte suggestibilité. C'est la grande disposition à se laisser influencer par quelqu'un d'autre ou par son environnement, soit par faiblesse d'esprit, soit par arriération mentale, soit enfin par retard affectif. Il y a aussi ce qu'on appelle la tendance à confondre l'imagination avec la réalité. Le déséquilibre psychologique peut vous porter à considérer votre imagination comme une réalité. Une personne normale peut imaginer voir un lion ou un ange et en rester à cette imagination. Mais une personne hystérique pourrait considérer son imagination comme étant une réalité et se comporter comme si elle voyait vraiment un lion ou un ange. Donc, la confusion entre l'imagination et la réalité. Autre caractéristique, une grande dramatisation, capacité à dramatiser. Donc, l'incapacité de contrôler ses émotions, très souvent vécue avec une grande théâtralité. Il y a aussi le besoin très impérieux, n'est-ce pas, d'être aimé, approuvé, estimé par les autres. On veut donc attirer l'attention de l'environnement sur soi et on crée des scénarios. Tendance à exagérer l'expression des émotions. Ce sont là des symptômes d'un psychisme déséquilibré, donc qui signifie psychisme propice au développement des comportements qu'on peut facilement confondre avec des phénomènes surnaturels, des phénomènes paranormaux. Toutes ces considérations peuvent nous aider à comprendre que beaucoup de comportements ou des situations attribuées au mysticisme ou à la sorcellerie sont parfois des faits relevant de la psychopathologie. Je voudrais finir avec cette question que je reconnais difficile et délicate. Alors, à quoi peut-on reconnaître l'authenticité d'un phénomène paranormal à caractère religieux? En règle générale, les expériences mystiques, si elles sont vraies et authentiques, conditionnent la vie de celui qui les fait. S'ils sont de nature religieuse, les phénomènes paranormaux renforcent la religion, ça veut dire les croyances et les comportements, n'est-ce pas, de celui qui en a fait l'expérience, en la rendant plus authentique, plus impliquée dans la vie de sa communauté des foi. On concevrait mal que quelqu'un qui prétend voir la Vierge Marie ou des anges, pendant que certaines vertus chrétiennes essentielles feraient défaut. Par exemple, du côté de la foi, l'espérance, la charité, l'humilité, l'obéissance, la compassion envers les malades, envers les pauvres, l'amour du travail, tout ça, ça ne lui dit rien. Pour lui, c'est seulement la Vierge Marie et les anges. Ça porterait à caution. Les phénomènes paranormaux de nature religieuse favorisent la maturité humaine, psychologique et même spirituelle, notamment pour ce qui concerne l'unification et l'intégrité de la personne, l'optimisme et l'intimité avec les autres, la concentration pour la réalisation d'un idéal de vie, le sens de créativité et de responsabilité, l'amour pour l'Église, l'obéissance aux autorités ecclésiastiques, etc., etc. Donc, le phénomène paranormal, qui, de quelque manière que ce soit, ne contredisent pas les principes fondamentaux de la foi chrétienne, devraient être encouragés, tout en restant vigilants quant à la possibilité que ces troubles ne soient que des problèmes psychopathologiques. Nous vous remercions.
Merci, Papa André, pour cet exposé sur les sujets du jour. 081 99 66 098, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à travers vos questions à cette émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Ils s'en vont de par le monde, troubadours et paladins, et derrière vagabonds de leur refrain. Aux quatre horizons du monde, troubadours et paladins, sèment l'espoir qui abonde dans leurs mains. Pas de leur clown ou de cigane, ou du roi ou bohémien, c'est ensemble en caravane qu'ils sont bien. Du Grand Nord à la Cerdagne, du Maghreb jusqu'à Pékin, l'essentiel les accompagne en chemin. Ils s'en vont de par le monde, troubadours et paladins, et derrière vagabonds de leur refrain. Aux quatre horizons du monde, troubadours et paladins, sèment l'espoir qui abonde dans leurs mains. Quand leurs instruments s'élancent, une flûte, un tambourin, chacun invente la danse et la soutient. Chacun découvre ses chances, et pour l'autre est un tremplin, c'est d'une même espérance qu'ils ont faim. Ils s'en vont de par le monde, troubadours et paladins, et derrière vagabonds de leur refrain. Aux quatre horizons du monde, troubadours et paladins, sèment l'espoir qui abonde dans leurs mains.
Merci à Jiresse Vangou qui est à la réalisation de cette émission pour ce beau cantique. Je rappelle le numéro 081 99 66 098. On va donc démarrer la partie question-réponse de cette émission psychologique. Voici mon problème. Nous prenons le message, voilà, le message de Papa Benjamin Ibiko. Bonjour Papa André et Maman Régine. Y a-t-il une différence entre les phénomènes paranormaux et les surnaturels?
Le phénomène, le surnaturel et le phénomène paranormal. Je pense que peut-être qu'il peut y avoir juste une nuance, mais le surnaturel est déjà suppose la croyance en un monde immatériel. Donc c'est déjà un langage qui suppose que on croit qu'il existe un surnaturel. Alors que le phénomène, le mot paranormal se veut plus neutre. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça prouve, on ne comprend pas ça vient d'où, donc l'intelligence humaine est limitée. Donc le surnaturel suppose la croyance dans un monde déjà immatériel, c'est ça la nuance. Mais dans le fond, ça signifierait la même chose.
Bonjour Papa André, bonjour Maman Régine. Avoir deux phénomènes qui sont apparemment paranormaux ou soit surnaturels, à première vue, quels sont les éléments des différences, vous en tant que psychologue?
Deux événements paranormaux.
Événements, l'un paranormal et l'autre surnaturel. Quels sont les éléments à première vue de, qui peuvent faire
différence? C'est la même chose. Quand je dis que Madame Tell avait un cancer, je ne sais pas moi, de la gorge, et miraculeusement, il a été guéri. Elle se porte bien maintenant. C'est surnaturel, mais aussi c'est paranormal. Donc, ce que je disais, il faut que le surnaturel renvoie, donc le paranormal devrait nous renvoyer à la croyance en un monde immatériel. Alors, si le paranormal est de nature religieuse, cela, pour comprendre son authenticité, on devrait aussi considérer la globalité de la vie de la personne qui témoigne de telles expériences, en quelque sorte.
On va prendre aussi ce message. Bonjour Papa André, parlons de rêves. Est-ce que tous les rêves ont un sens ou par moment c'est juste le fonctionnement de notre cerveau?
Bien sûr, du point de vue psychologique, tout rêve a un sens. Il y a ce qu'on appelle le sens apparent, c'est le récit que vous faites, ce que vous avez vu dans le rêve, que vous avez vécu, et le sens latent. Ça veut dire, que signifie ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu dans le rêve. Donc, sur le plan psychologique, tout rêve a un sens. Même le rêve le plus, on va dire, le plus bizarre, qui n'a aucun sens apparemment, il a toujours un sens. C'est un peu ça.
Bonjour Papa André, merci pour cette émission. Parlons de rêve. Est-ce qu'il est obligatoire de rêver? Deuxième question, je peux donner mon exemple. J'ai l'impression que je peux faire 2 semaines sans rêver. Est-ce qu'il y a des rêves qu'on peut faire sans s'en souvenir?
Ouais, je vais demander d'être un peu patient parce que prochainement on parlera exactement de rêves. Mais pour autant que les questions sont posées, essayons d'y apporter quelques éléments de réponse. Est-il obligatoire de rêver? Bon, le mot obligatoire, on n'est pas obligé de rêver, mais c'est le cerveau dans son fonctionnement, on va dire autonome, qui arrive à un moment donné de son fonctionnement d'élaborer le rêve en se servant de certains éléments que nous aurons le plaisir de vous détailler prochainement. Eh bien, sachez que un rêve n'est pas une obligation, c'est une activité normale du cerveau. L'autre versant de la question, c'était est-ce que le rêve, on peut faire 2 semaines sans rêver? Bon. Il est fort possible de faire une nuit sans rêver. Parce que le rêve dépend de la qualité du sommeil, entre autres, de la qualité du sommeil, qui va faire que le cerveau ou l'individu dormant atteigne comme une phase donnée, parce que le sommeil connaît plusieurs phases. Et dans une phase donnée, il est probable que le cerveau élabore ce rêve. Et cette phase-là dépend du besoin physiologique, dépend aussi de l'âge. Donc, selon votre âge, selon votre état physiologique, eh bien, vous pouvez ne pas rêver. Donc, ce n'est pas que vous devez absolument rêver ou qu'on rêve toujours. On peut ne pas rêver, mais toute une vie sans rêve, ça, ce n'est pas encore scientifiquement prouvé.
On va prendre ces messages. Bonjour, je m'appelle Bénédicte. D'où vient le phénomène paranormal? Pourquoi classer cela dans la catégorie des phénomènes inexplicables? Qu'est-ce qui rend ça inexplicable? Car on n'a jamais découvert tout ce qui existe dans le monde et leur signification.
Oui. Il a donné, monsieur ou madame, a donné partout la réponse. Tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui n'est pas explicable aujourd'hui pourrait, enfin, quelque chose qui n'est pas explicable aujourd'hui pourrait trouver une explication rationnelle, scientifique. Mais du moment que nous en sommes là, je viens de donner l'exemple d'une maladie incurable. Comment expliquer que, alors que la science avait déjà compté les jours de cette dame-là, on dit, vous, il vous reste 3 mois à vivre. Mais ça fait 3 ans que la dame est là, elle n'a plus de cancer, elle n'a plus de maladie. Comment expliquer ça? Du moment que nous en sommes là, nous nous disons ça, c'est un phénomène paranormal. On a vu des miracles, on a vu... Il y a des cas, si je peux, hein, il y a des prêtres qui font l'exorcisme. Il y a des cas de possession avérés, ça vient. Comment on peut expliquer ça? Même la Bible, si vous y croyez, il y a des cas de possession. Ce sont des phénomènes paranormaux, donc inexplicables par la science, bien qu'avérés.
081-99-66-098, on va aussi prendre un autre message. Bonjour Papa André, vous nous parlez des phénomènes paranormaux et psychopathologiques. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que le psychopathologique n'est pas provoqué par ce qui est inexplicable, c'est-à-dire le paranormal?
Merci pour la question. Non, le psychopathologique n'est pas paranormal, n'est pas le paranormal. Le paranormal, c'est ce qui échappe à la raison humaine, ce qui ne s'explique pas naturellement, ce qui ne s'explique pas. Quelle est cette science qui va me prouver que un certain Padre Pio, que beaucoup d'entre nous connaissent au moins de nom, un certain Padre Pio pouvait se trouver en deux endroits différents au même moment, faisant deux activités différentes. Vous avez compris, il est chez lui à San Giovanni Rotondo en train de confesser les gens. En même temps, il est au Vatican en train de causer avec d'autres prêtres. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça, ce n'est pas une maladie mentale. Donc, une maladie mentale, c'est ce qu'on appelle psychopathologie. Alors que le paranormal, c'est un phénomène surnaturel, inexplicable par la science, par définition.
081-99-66-098. Nous poursuivons cette émission. Vous avez des questions, l'émission en direct. Écrivez-nous au 081-99-66-098. Nous allons donc vous recevoir et recevoir également vos préoccupations. Joseph Demarie nous fait un long voice. On va l'écouter.
Bonjour, Maman Régine. Bonjour, Papa Etandala. Et merci beaucoup pour cette très belle émission. Hein. Selon vous, très cher Papa, les phénomènes paranormaux relèvent de la réalité ou plutôt de l'illusion ou même de l'interprétation. Parce que dans votre émission précédente, hein, laquelle émission je n'avais pas pu participer faute de méga, vous disiez que le rêve de Joseph, le mari de Marie, relève d'un phénomène paranormal qui échappe aux scientifiques et psychologues que vous êtes. Et donc, pour moi, Joseph de Marie, en tant que chrétien catholique, j'ai conclu que ce phénomène-là, paranormaux, biblique, relève du domaine de la foi, d'où ma question. Vous, en tant que psychologue et de surcroît chrétien catholique, parce que vous confessez d'abord la foi catholique, pouvez-vous exiger de faire une sorte de psychanalyse? Pouvez-vous entamer une démarche rigoureuse afin d'exiger la véracité des faits sur les rêves de Joseph, le mari de Marie, ou même de Joseph, fils de Jacob dans l'Ancien Testament, et arriver ainsi à manifester une sorte de doute. Hein, n'oubliez pas ici que vous êtes chrétien catholique. Donc à manifester une sorte de doute là-dessus, du fait que vous ne savez pas, jusqu'au moment où je vous parle, si les rêves de Joseph, le mari de Marie, ou même le rêve de Joseph, fils de Jacob, est teinté ou pas de troubles mentaux, est teinté ou pas de pathologies ou des biais cognitifs rendant ainsi difficile la distinction entre une expérience surnaturelle authentique et une simple hallucination ou même une interprétation erronée. Quelle est votre position là-dessus? Ma deuxième petite question. Le paranormal, comme par exemple la vision de Bernadette Soubirou à Lourdes, qui a alimenté et qui continue d'ailleurs à alimenter une sorte de dévotion populaire et même à attirer les médias, et qui arrive finalement, ces visions-là, à renforcer jour pour jour les croyances ou la croyance individuelle de tout fidèle catholique. Qui êtes-vous alors, vous, psychologue, papa et Tandala, et de surcroît chrétien catholique, pour essayer de dire à tout ce monde qui croit et qui sont captivés par la vision de Bernadette Soubirou qu'ils doivent émettre avant tout un peu de doute avant de dire amen à ces visions? Et pour finir, puisque vous parlez des stigmates, prenons le cas de Padre Pio qui a vécu une expérience paranormale hors norme avec des répercussions matérielles sur son corps à cause des stigmates. Or, qui dit stigmate dit souffrance physique. Et cette souffrance physique peut avoir un impact significatif sur le bien-être mental et même sur la qualité de vie de Padre Pio, nécessitant parfois un accompagnement psychologique. Alors, face à cet impact-là sur le plan mental de Padre Pio, vous allez conclure, vous, en tant que psychologue, que Padre Pio est une personnalité hystérique de conversion, est dans la catégorie de personnalité hystérique de conversion, et comment pouvez-vous porter la solution ou apporter la solution à ces souffrances de Padre Pio qui viennent de Jésus lui-même? Ou plutôt, vous allez tout simplement avoir une attitude sceptique et à la fois ouverte en reconnaissant la subjectivité des expériences de Padre Pio tout en étudiant les mécanismes psychologiques et cognitifs qui peuvent expliquer ces souffrances-là. Merci beaucoup, cher papa, bonne journée.
Merci, Joseph Desmarie.
Merci beaucoup, maman Régine. Avant d'essayer de répondre à ce fleuve de discours, je tiens à donner un petit conseil fraternel et amical au bien-aimé Marie-Joseph de Marie. Prochainement, quand vous parlez avec des gens ou que vous posez des questions dans des émissions, souvenez-vous de ceci. L'esprit de synthèse et d'analyse n'est pas une pauvreté ou une faiblesse intellectuelle. Bien au contraire. Il faut savoir être synthétique dans des circonstances pareilles, savoir être synthétique, précis, concis pour faciliter la tâche à vos interlocuteurs. Sinon, ça devient une sorte de soupe indigeste. Alors, est-ce que le rêve relève, le phénomène paranormal relève-t-il de la réalité? Oui. La réalité, par définition, c'est ce qui est. Le mot réalité vient du latin, si je ne me trompe pas, res. Ça veut dire la chose. Donc, réalité et réalité, ce qui existe. Or, nous, en tout cas moi, personnellement, je ne suis pas seul. La réalité n'est pas que matérielle, temporelle. Il y a des réalités spirituelles, immatérielles. Donc, le paranormal avéré relève de la réalité. Et si nous sentons que nous avons la conviction qu'il s'agit du paranormal, c'est qu'il y a une sorte de d'irruption peut-être du surnaturel dans notre naturel. Donc, le paranormal, le rêve de la réalité, aussi bien de la réalité matérielle que de la réalité immatérielle, spirituelle, si vous voulez. Est-ce qu'on peut juger d'analyser les personnages bibliques ayant fait des songes, notamment Joseph de Jacob ou Joseph, le père nourricier de notre Seigneur? Moi, je ne sais pas si je, pour autant que je me souvienne de ce que j'ai déjà dit à ce sujet, je n'ai jamais dit que tout rêve, et il faut le prendre à la lettre. Je n'ai jamais dit qu'un phénomène paranormal relève de la psychopathologie. Non, je dis que le paranormal existe bel et bien. Mais nous devons faire attention à ne pas confondre tout ce qui semblerait paranormal, le considérer comme effectivement paranormal. Pourquoi ? Parce que il y a des phénomènes psychopathologiques similaires, donc des phénomènes qui pourraient nous faire croire que nous avons affaire à des problèmes paranormaux. J'ai donné donc des exemples des symptômes des maladies mentales, symptômes qui feraient penser à des phénomènes paranormaux, notamment les stigmates, les extases, les maladies, etc., etc. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas exiger de psychanalyser Joseph. Pourquoi? C'était un homme saint, un homme très équilibré, très, très responsable. Doute ou prudence au sujet de la... Moi, je vous avais dit que, en parlant de Bernadette, est-ce qu'il faut toujours douter? Je ne sais pas si j'ai parlé de douter. Je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas que j'ai utilisé le mot. J'ai dit la prudence. Je n'ai pas dit de douter. Il faut être prudent. Prudent, ça veut dire, eh bien, prendre des mesures qui s'imposent pour discerner s'il s'agit réellement d'un phénomène paranormal ou de quelque chose de fallacieux, voilà, qui peut venir de l'ennemi, qui peut venir de la psychologie humaine. C'est un peu ça. Voilà ce que je dis au sujet de l'intervention, la très longue intervention de notre frère Joseph de Mali.
On va prendre aussi un autre audio.
Bonjour, Papa André. Bonjour, Maman Régine. J'aurais bien voulu être là, faire une petite surprise, surtout à Papa André, malheureusement. Certains contraintes n'ont pas permis. J'ai bien suivi l'émission et j'ai beaucoup aimé. Et je voulais juste dire d'encourager Papa André parce que quand il a parlé de faire la différence, c'est pour l'authenticité des phénomènes purement religieux. J'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, voilà, son développement nous fait voir que nous avons face à un psychologue qui utilise le soubassement de sa foi en même temps. Parce que, à mon avis, un psychologue sans la foi, qui n'est pas ancré, nous donnerait juste l'explication pour vraiment nous dérouter complètement, sans voir ces différents aspects que Papa André a pu relever. Merci d'être là pour nous, de nous aider, tous les enfants de la Vierge Marie, pour pouvoir améliorer toujours notre façon de voir certaines choses. Un grand merci et bon courage pour la continuité. Merci. C'est Maman Christine Changa Changa Bukongo.
Merci beaucoup, Maman Christine.
Non, nous vous remercions pour les encouragements, pour votre soutien moral et spirituel. Que Dieu vous bénisse, maman, et soyez heureuse là où vous êtes. Merci.
On prend notre message. Bonjour, Papa André et Maman Régine. Merci pour l'émission. Peut-on dire que les phénomènes paranormaux sont les activités subconscientes dans le monde physique ou réel? C'est Cosmas de Marie depuis Lubumbashi.
Merci beaucoup. C'est une bonne question. Quand vous faites intervenir le concept de subconscient, ça renvoie à la psychologie. Le phénomène paranormal, ça dépasse la psychologie. C'est vrai que l'individu qui le fait, il le fait avec tout son être. Je veux dire, et même sa dimension psychologique est impliquée. Mais en tant que tel, l'expérience qu'il vit n'est pas exclusivement psychologique. Il est en contact avec le surnaturel, si vous permettez. Donc, ce n'est pas la pure psychologie, mais c'est la réalité totale de l'individu qui est impliquée. Donc, ce n'est pas seulement subconscient, mais spirituel, si vous permettez. Merci beaucoup.
Autre question, est-ce que la stigmatisation est forcément pathologique? Et en quoi est-elle différente? C'est Francie depuis Badiading. Bonne fête de l'indépendance à vous.
Moi, je commence à prendre un peu peur parce que j'ai l'impression que je n'ai pas été suffisamment clair. Alors, beaucoup d'auditeurs n'ont pas compris que ce qui est paranormal n'est pas forcément psychopathologie. Je n'ai pas dit que les stigmates de Saint François, de Padre Pio, de Sainte Catherine de Sienne, c'était une hystérie. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que le paranormal existe. Dieu est libre, miséricordieux par définition, et dans sa souveraineté, il peut donner pour le bien de ses enfants, de son église, d'appeler quelqu'un d'être témoin de ce qu'a été la passion de son fils. Vous avez compris? Alors, donc Dieu relève sa face miséricordieuse dans ce sens-là. Mais, c'est ça le bémol qu'il faut mettre. Tout ce qui semble paranormal n'est pas paranormal. Parce que l'organisme humain est capable de produire des phénomènes apparemment paranormaux, alors que c'est tout simplement humain, psychologique. C'est ça. En bref, le paranormal existe, mais tout n'est pas paranormal. Même si apparemment, ça semblerait du paranormal. C'est ça le discours.
081-99-66-098. Voilà, donc on revient encore à Joseph Desmarie.
Merci beaucoup, cher papa Etandala, et merci pour, pour la remarque, que je serai beaucoup plus bref. En fait, lorsque vous évoquez souvent les personnages bibliques, surtout concernant les sujets sur le paranormal, je sens en vous comme si c'est comme si vous voyez que vous ne pouvez rien dire sur ces personnages-là parce qu'ils sont lointains et que vous n'aviez pas peut-être pas vécu avec eux pour essayer d'analyser sur leurs rêves, etc., etc. Et pourtant, je vous apprends qu'il y a un livre qui est sorti et que j'ai vu sur KTO intitulé L'avocat de Jésus, écrit par un maître avocat de nos jours, qui a essayé d'analyser tous les faits sur la passion de Jésus et essayer d'apporter son expérience en tant qu'avocat pour trancher, pour essayer de jouer à l'avocat de Jésus. Pourquoi pas vous, les psychologues? Vous pouvez aussi écrire un livre pour essayer d'étudier sur les rêves de Joseph, par exemple, de Jacob ou d'autres personnages bibliques. Pourquoi pas? Et nous écrire un livre, par exemple, sur intitulé La psychologie de rêve de Joseph ou La psychologie des rêves de Jacob, de tel personnage biblique. Pourquoi pas, cher papa? Merci beaucoup.
Merci. Merci pour le conseil. Je ne peux pas. Maman Régine, veuillez m'excuser, franchement. Je ne voudrais pas faire de la pub, hein, mais pour répondre aux soucis de notre frère. Il y a de cela quelques années, moi, votre frère André, j'ai publié une petite brochure comme ça, intitulée Transfert et contre-transfert dans une relation pastorale, quelque chose comme ça. Transfert et contre-transfert dans une relation d'aide pastorale. Et dans cette brochure-là, entre autres choses, j'ai présenté Jésus, le comportement de Jésus devant Joseph, pardon, Marie Magdala, quand Jésus reçoit cette pécheresse-là pendant un banquet chez un pharisien. Je présentais le comportement de Jésus comme un comportement exemplaire dans une relation psychothérapeutique. Si vous allez chez Mediapol, vous cherchez ça, ça fait quelques années, vous pouvez en trouver à côté de Victoire, par exemple, il y en a. Donc, ne vous en faites pas. Ce que je ne veux pas trop mélanger parce que le religieux implique le psychologique et le psychologique plus ou moins renvoie plus ou moins au religieux. Donc, ce que je refuse, c'est prendre à la lettre, donc ne voir en Jésus, en un personnage biblique, uniquement avec les yeux des psychologues. Parce que ce qu'on nous présente dans la Bible, c'est déjà une théologie, une interprétation de la parole de Dieu à la lumière de la foi. Une expérience de vie à la lumière de la foi, d'une communauté ou d'un individu ou d'un peuple, c'est ça. Merci beaucoup.
081-99-66-098, appelez-nous, écrivez-nous, envoyez vos questions sur ce numéro. Nous parlons des rêves et phénomènes paranormaux. Et aujourd'hui, là, le sous-thème, c'est bien comment distinguer le paranormal du psychopathologique. 081-99-66-098. On va prendre aussi un autre message. Bonjour Radio Maria, merci pour cette belle émission. Juste savoir la différence entre le phénomène paranormal et souvent les rêves que nous faisons et qui ne sont pas très bien compris, mélangés par des séquences différentes.
Ben, c'est ça. Je ne comprends pas la pointe de la question, la différence entre les phénomènes paranormaux et le rêve.
Oui.
Le rêve, un rêve pourrait être qualifié de paranormal lorsque il est considéré comme un rêve prémonitoire. Je donne souvent cet exemple. Je rêve d'un oncle. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à cet oncle-là. On n'a pas parlé, ça fait des longs mois, des années peut-être. Une nuit, je rêve qu'il est venu me rendre visite. Quelques jours plus tard, l'oncle est là. Ça vient d'où ça? Qui m'a annoncé ça? Vous allez mettre des théories? Bon, moi, c'est cela. Je rêve que... Il y a une dame qui m'a fait son... Excusez-moi. Elle a eu trois grossesses. 6 enfants. Elle fait toujours des jumeaux. Elle me dit, papa André, yambotenako yazemi na lota kakak. Soit ba pesinga 2 mangues, soit 2 pigeons, soit on me dit, donc on m'annonce, quand je vais tomber enceinte, je fais un rêve où on me donne, on me fait un don en deux. Donc, un cadeau en 2 exemplaires, si vous voulez. L'autre fois, j'ai rêvé de 2 mangues, et puis 2 pigeons, et puis autre chose comme ça. Donc, ça vient d'où ça? Ce sont des rêves prémonitoires. Le rêve de Saint Joseph, le père de Jésus. Joseph, notre ancêtre dans la foi, Joseph, fils de Jacob, sont des rêves prémonitoires. Ça vient d'où ça? Donc, le monde spirituel existe. Vous avez compris, c'est ça.
Nous tendons vers la fin des questions. Nous vous recevons au 081-99-66-098, le même numéro, vous pouvez le composer pour nous appeler. L'émission est en direct, on va prendre ce message. Bonjour Papa André et Maman Régine, juste vous remercier pour l'émission et poser la question de savoir si les bébés aussi rêvent. Excusez-moi si je suis hors sujet.
Non, vous n'êtes pas hors sujet, mais vous êtes dans le thème, même si le sous-thème ne correspond pas exactement, mais vous êtes dans le thème. Les bébés rêvent aussi. Et les bébés n'ont pas la capacité de faire la différence entre le rêve et la réalité. Si le bébé rêve qu'il tombe des genoux de sa mère, il va se réveiller en pleurant. Moi, non, il faut râler là. Non, il fait de faire un cauchemar. C'est un peu ça. Merci.
Merci beaucoup, Papa André. Je crois que c'est par ici que nous allons nous arrêter. Un dernier mot.
Merci à tout le monde, à vous, Maman Régine. On y reviendra avec le thème de rêves, précisément. En grosso modo, les phénomènes paranormaux, de quelque manière que ce soit, qui ne contredisent pas les principes fondamentaux de la foi chrétienne, devraient être encouragés. Et tout en restant vigilant à la possibilité des troubles psychologiques. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une vision, une apparition, que votre curé va vous applaudir tout de suite. Il doit chercher à comprendre dans la foi et dans la prudence d'où ça vient. Est-ce que vous êtes une personne à prendre au sérieux ou on doit vous amener excusez-moi, à Téléma. Merci beaucoup. Pour qui voudrait appeler, continuez, mon cher Joseph de Maric. Vous ne m'avez jamais appelé malgré mes invitations à répétition. Je m'en prends à vous, Joseph. Appelez-moi qu'on discute en long et en large. 082 20 0 29 18. Merci beaucoup.
Merci Papa André, merci à tous les fidèles auditeurs et auditrices qui étaient au rendez-vous de cette émission psychologique. Merci aussi à la réalisation qui était assurée par Jérès Vangou. Il était question de distinguer le phénomène paranormal du psychopathologique. Merci à vous, restez-nous fidèles.
Monde plus beau à faire ensemble.